Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Molecular Psychiatry. Des réseaux cérébraux qui tiennent un rôle dans le risque de suicide viennent d'être identifiés.
On peut rappeler que 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, une toutes les 40 secondes, que c'est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Et pourtant, on en comprend mal les mécanismes cérébraux. Une équipe internationale a réuni 20 ans de recherche et d'imagerie cérébrale de personnes à risque. En tout, plus de 130 études qui concernent plus de 12 000 patients, avec tous un diagnostic de dépression majeure, de troubles bipolaires ou de stress post-traumatique. Sur cette même population, les chercheurs ont comparé ceux qui avaient fait des tentatives de suicide et ceux qui n'en avaient pas fait. Les données structurales, fonctionnelles et moléculaires de différentes zones ont été réexaminées et on constate que chez des personnes suicidaires, deux réseaux cérébraux se comportent différemment. Le cortex préfrontal ventral et le cortex préfrontal dorsal. Laurence Lanfumé est directeur de recherche à l'INSERM. Elle travaille au Centre de psychiatrie et neurosciences à Paris.
On sait que le cortex préfrontal ventral, il est impliqué dans les états négatifs, dans l'émoussement émotionnel, alors que le cortex préfrontal dorsal, il est plus impliqué dans le comportement. Ce qui est vraiment dangereux, c'est quand il y a une altération des deux, parce que les idées suicidaires peuvent être traduites par un passage à l'acte. En ce qui concerne le cortex préfrontal ventral, ils ont vu qu'il y avait une hyperactivation, en fait, et ce qui voudrait dire que les patients ont un besoin d'un plus grand engagement de ces structures pour avoir la même performance comportementale. En ce qui concerne le cortex préfrontal, la partie dorsale, il y a des altérations à la fois dans trop d'activation ou trop d'inhibition. Il y a un déséquilibre. Pour essayer de prévenir les tentatives de suicide et le suicide, il est important de connaître les structures, faire une sorte de biomarqueur du risque. Et on peut voir que lorsqu'il y a des modifications à la fois structurelles, fonctionnelles, et ils ont vu aussi qu'il y avait des modifications d'un neurotransmetteur dont on sait qu'il est impliqué dans la dépression, qui est la sérotonine, qui est la cible d'ailleurs des antidépresseurs actuels. Eh bien, s'il y a une modification de ces deux structures, eh bien, c'est vraiment dangereux parce que il peut y avoir un passage à l'acte.
Et évidemment, vous pouvez retrouver, comme tous les jours, l'étude et les études qui vont être évoquées dans ce journal des sciences ainsi que dans l'émission sur notre site, sur le site de la méthode sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Et on passe au bref. Une équipe internationale vient de découvrir une protéine responsable du renouvellement des cellules souches du sang.
Oui, ces résultats viennent de paraître dans la revue Nature. Après une série d'expériences en laboratoire, l'équipe a découvert que la protéine générée par le gène MLLT3 est liée au renouvellement des cellules souches hématopoïétiques, les cellules souches sanguines. Lorsque ce gène est inséré dans les cellules souches sanguines multipotentes, elles s'auto-renouvellent 12 fois plus. Les auteurs pensent que cela pourrait permettre de créer des cellules souches sanguines à partir de cellules souches pluripotentes. Pour les traitements des maladies du sang, c'est une avancée importante.
Amazon entre dans la course au quantique avec les processeurs quantiques basés sur le cloud.
La firme ne cherche pas à construire un ordinateur quantique, mais après Google, IBM et Microsoft, Amazon entre dans le marché du cloud computing quantique. Elle vient d'annoncer un partenariat avec 3 startups pour la création d'Amazon Braket, un accès en ligne à des prototypes de processeurs quantiques. Les clients vont pouvoir créer des algorithmes qu'ils pourront ensuite tester sur des ordinateurs quantiques simulés.
Et enfin, l'année se termine avec les chiffres de l'Organisation météorologique mondiale. 2019 est la troisième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850.
Oui, la décennie 2010-2019 est la décennie la plus chaude de toutes. Depuis janvier, la température moyenne mondiale a été plus élevée de 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et pour citer ce rapport, l'année 2019 marque la fin d'une décennie de chaleur exceptionnelle, de recul des glaces et d'élévation record du niveau de la mer à l'échelle du globe, en raison des gaz à effet de serre produits par les activités humaines.